A du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, faire mieux avec moins, c'est, ou en tout cas ce devrait être, l'obsession mondiale. Parce que les ressources naturelles ne sont pas illimitées, que les économies des vieux pays industrialisés sont en crise et que les défis comme l'accès à l'eau, à l'énergie, à la santé ou à l'éducation ne vont pas se simplifier avec la croissance démographique. Un poncif, une déclaration d'intention, pensez-vous ? Eh bien non, c'est un état d'esprit qui est déjà à la base d'une multitude d'innovations sur la planète. L'esprit Jugad, un terme indie que l'on pourrait traduire par débrouillardise, l'incarne. Alors rapprochez-vous de votre poste de radio, c'est un vrai souffle d'optimisme que vous allez respirer.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Navi Radjou.
Bonjour.
On vous voit partout, hein, en France, depuis quelques semaines, pour résumer, on peut dire ça comme ça. L'exposition Wave, quand l'ingéniosité change le monde, que vous avez orchestré, a fermé ses portes aujourd'hui à Paris, mais elle va faire le tour du monde, je crois qu'on peut dire ça.
Exact.
Vous êtes consultant en innovation dans la Silicon Valley, vous avez écrit l'innovation de Jugad, redevenons ingénieux, publié chez Diateno, parce que c'est vous qui avez théorisé cet état d'esprit de Jugad en faisant des recherches sur les nouvelles approches de l'innovation dans les pays émergents en général, et en Inde en particulier. Alors, on va dire tout de suite aux auditeurs, attention, on ne parle pas d'invention, on parle d'innovation. Et l'état d'esprit de Jugad dans ces innovations, c'est très structuré puisqu'il y a 6 principes.
Tout à fait. C'est vrai que Jugad, le terme même, se traduit par débrouillardise. Mais derrière, quand même, une approche un peu plus structurée. Et c'est vrai que la différence entre invention et innovation, c'est que l'innovation apporte de la valeur. Donc, la majorité des solutions Jugad que vous voyez dans les pays émergents sont censées quand même apporter de la valeur sociale, économique pour les communautés.
Alors, les 6 principes, vous les décrivez très clairement dans votre livre. Je ne vais pas les énumérer, moi. Je vous laisse les énumérer, vous.
Oui, alors, tout simplement, en fait, je peux condenser ça en 3 grands principes. Le premier principe, c'est le principe de frugalité. C'est comment faire mieux avec moins. Donc, c'est trouver des façons astucieuses d'utiliser les ressources qui sont souvent rares pour créer plus de valeur. Le deuxième principe clé, c'est l'idée de rendre les choses simples. Souvent, dans le monde occidental, on tend à rendre les choses plus complexes en termes de produits. Alors qu'en Occident, dans les pays émergents, l'idée, en fait, c'est de rendre le produit plus facile à utiliser, plus facile à maintenir. Donc, il y a quand même une obsession autour de la simplicité. Et puis, le troisième principe, c'est penser vraiment, je dirais, de façon agile, c'est-à-dire, on appelle ça en français, hors de boîte, outside the box. C'est vraiment comment convertir les contraintes en opportunités.
Alors, l'idée, c'est justement de rechercher des opportunités dans l'adversité. Hein. C'est ça aussi l'état d'esprit de Jugad. C'est-à-dire qu'on a un problème et au lieu de s'effondrer face à ce problème, on le contourne en se disant, tiens, comment je peux en faire une opportunité ? Et alors, il y a des tonnes d'exemples. Hein.
En fait, effectivement, j'appelle ça, c'est les alchimistes de l'ère moderne. Ils sont capables de transmuter l'adversité en opportunité. Et par exemple, un exemple que j'aime beaucoup, c'est en Inde, un jeune homme qui avait eu marre de voyager en vélo dans son village, qui était entresemé de nids de poules. Et finalement, au lieu de, imaginez, vous êtes un ingénieur dans une constructeur automobile, vous avez inventé, en fait, des amortisseurs pour contrecarrer ce problème. Lui, il a trouvé une troisième voie qui consiste, en fait, à, il a inventé un petit appareil qui s'attache à son vélo, qui convertit les nids de poules en énergie d'accélération.
Des chocs, en fait.
Voilà. Mmh. Plus il y a de bosses sur la route, plus le vélo roule vite. Donc, c'est justement prendre l'adversité et puis dire finalement comment, en fait, je peux convertir ça en une opportunité qui apporte la valeur pour moi et pour les autres.
Et ce qui est intéressant, c'est que son invention aujourd'hui est regardée de très près par des ingénieurs de haut niveau et par des constructeurs automobiles.
Absolument. MIT, par exemple, est venu étudier ça. Et entre parenthèses, il paraît que le patron de Auchan, Vianney Millez, m'a dit qu'une solution similaire a inspiré aussi des gens, des employés de Auchan en Italie. On peut implémenter une solution similaire, mais cette fois-ci dans les parkings là-bas.
Alors j'imagine la tête un peu en forme de point d'interrogation de nos auditeurs là qui nous écoutent en ce moment, surtout en Afrique, parce qu'ils doivent se dire qu'en fait, faire mieux avec moins, faire preuve d'ingéniosité, tout ça, c'est ce qu'ils font au quotidien, parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc quelle est la différence entre un auditeur qui nous écoute là et qui se bat au quotidien pour améliorer sa vie, et puis un inventeur Jugad ?
Je pense qu'effectivement, on dit que la nécessité est la mère de l'invention. Donc effectivement, dans les pays émergents, ce qu'on voit, c'est que faire du yoga, c'est presque, je dirais, une question de survie. Hein. C'est pas une question d'innovation. Mais en fait, ce que nous, on essaie de promouvoir, c'est le fait que ces principes de yoga deviennent aussi très, très importants en Occident. Parce qu'effectivement, l'Occident fait face quand même, surtout en Europe, une crise économique prolongée. Les ressources naturelles commencent à se tarir. Donc quelque part, cet état d'esprit de faire mieux avec moins et pouvoir convertir l'adversité en opportunité deviennent en fait des qualités essentielles pour innover en fait à moindre coût aussi dans les pays occidentaux.
Alors, on va y revenir hein, sur le fait que l'Occident a aussi besoin d'état d'esprit de yoga, et d'ailleurs, ça se répand énormément. Alors, l'un de vos inspirateurs, Navier Adjou, c'est le professeur Anil Gupta, qui a créé, il y a plus de 20 ans, le réseau Onibi en Inde, donc pour découvrir les inventions, justement, des paysans indiens. Alors, Corinne Moutou a suivi une marche à la rencontre de ces innovateurs. Je vous propose à nouveau de la suivre.
आंवला का जूस निकाला जाता है इसका जूस निकाला जाता है और इसका मंजन बनाया जाता है चूर्ण बनाया जाता है इसका जो बीज है इसका कोयला बना करके इसका मंजन बनाया जा सकता है
धर्मवीर कंबोज l'un des innovateurs locaux de l'état de Haryana dans le nord de l'Inde, près du Punjab, qui a été découvert par l'association Onibi Network, est en train de présenter ce matin aux villageois de Pesejol son invention, un multiprocesseur pour fruits et légumes à bas coût. Et c'est tout le principe de Onibi Network qui est mis en œuvre, autrement dit celui de la pollinisation, comment un villageois d'un tout autre état peut aider d'autres villageois à acquérir une machine à bas coût qui va leur faciliter le travail, qui va aussi leur permettre peut-être de produire des jus de fruits qu'ils pourront revendre.
J'ai inventé un processeur à multi-usages. Avant cette innovation, ma situation financière était terrible et je n'étais pas en bonne santé. J'ai commencé à travailler sur cette machine en 2006 et l'ai terminée un an plus tard. J'ai contacté ensuite plusieurs responsables de l'état d'Haryana, mais n'ai eu aucune écoute, aucun soutien. Toutefois, j'ai continué mes recherches sur la manière d'améliorer ma machine. Quels seraient les fruits et légumes qui pourraient être traités? Et puis un jour, mon processeur a été mentionné dans un journal local. Et c'est comme cela que le Onibi Network en a entendu parler et que j'ai été contacté.
Quel est votre parcours et pourquoi vous étiez donc dans une situation financière aussi difficile?
J'ai passé mon bac en 1984 dans mon village, mais à cause de ma mère très malade, je n'ai pas pu poursuivre mes études. J'ai donc commencé à travailler. En 1986, ma mère est décédée et j'ai décidé de me marier pour avoir une femme qui s'occuperait de notre maison. Mais une épouse, c'est aussi un poids financier. À l'époque, j'étais infirmier. Je cultivais des plantes médicinales pour les soins ayurvédiques, mais cela ne rapportait pas suffisamment d'argent pour nourrir toute la famille. Alors, j'ai décidé de partir à New Delhi pour trouver un travail. C'est là que je suis devenu chauffeur de rickshaw.
Qu'est-ce qui s'est passé en fait une fois que Honeybee Network a découvert votre innovation, ce petit processeur multi-fruits, multi-légumes, multi-usages?
Honeybee Network a commencé à faire la publicité de ma machine. Et chaque fois qu'il y avait une foire commerciale, ils m'aidaient financièrement à en faire partie. Et puis, ils m'ont obtenu une commande pour une machine à envoyer au Kenya. Cela m'a fait tout d'un coup l'équivalent de 300 euros. Puis, je suis allé à une autre foire, à Jaipur, au Rajasthan, où j'ai eu une nouvelle commande. Et après, c'était bon, le processus était enclenché.
Comment est-ce que vous avez eu l'idée de cette innovation et donc en quoi consiste cette machine?
Cette machine a dépassé toutes mes attentes en termes de succès et de reconnaissance. L'idée initiale de cette machine m'est apparue pendant mes années à New Delhi. À l'époque, je voyais des produits alimentaires qui étaient importés d'autres pays. Et je me disais, je mange cette confiture de fraises, mais je peux cultiver des fraises. Et des paysans partout en Inde font pousser des fraises. Donc pourquoi ne pourraient-ils pas les transformer aussi? Et c'est ainsi que j'ai commencé à réfléchir à cette machine. Quant à la machine elle-même, la manière dont elle fonctionne est, je pense, très innovante. C'est une machine à plusieurs étages qui marche sur du courant monophasé et que vous pouvez donc brancher sur n'importe quelle prise de la maison. Elle coupe, elle moue, elle extrait la pulpe des fruits, elle grille les graines. Donc quoi que vous vouliez faire, que ce soit des extraits de plantes, de fleurs, de la confiture, du jus d'aloe vera, c'est possible. Ce qui fait son originalité, c'est que quel que soit le fruit que vous mettiez, il le sépare de sa peau, du noyau ou des pépins. Donc, la pulpe reste intacte et la sauce, le jus, la purée ou la confiture ne sont jamais gâtés par le goût du noyau ou de la peau qui s'y serait mélangé.
Et des innovations comme celle-ci, Navi Raju, il y en a plus de 150 000, je crois, qui ont été brevetées par le réseau Nibi Network.
C'est exact. Et ce qui est fascinant aussi, c'est qu'en fait, comme c'était indiqué dans, justement, vous avez entendu, c'est qu'il y a une demande pour ce genre d'innovation, en fait, à travers d'autres pays émergents. Une autre innovation que je cite dans mon livre, qui est ce réfrigérateur qui a été inventé par Mansour Pajapati, que nous ne connaissons pas d'électricité. Et qui est capable de préserver des fruits et légumes pendant 5 jours. Et ça, c'est une invention que nous, on a mise en valeur quand j'étais à Cambridge University. Et on a eu des emails de Colombie, de l'Afrique, et même un équipementier bien durable allemand nous a contacté parce qu'il était intéressé. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une solution au départ, essayer d'adresser un problème local. Mais ce qu'on remarque de plus en plus, c'est que ces problèmes, en fait, sont universels. Et donc, de ce fait, les solutions aussi ont une appétence pour les marchés mondiaux.
L'état d'esprit Jugad souffle sur la planète, vous l'avez bien compris. Et d'ailleurs, il y a un hymne Jugad en Inde. Écoutez, c'est pas du vent sur RFI, vous avez bien raison, nous parlons de l'état d'esprit de Jugad, ce souffle d'innovation qui se répand sur la planète avec Navi Raju, l'un de ses cofondateurs, celui qui a théorisé donc cet état d'esprit de Jugad. Et Thomas Landrin nous a rejoint, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez créé un laboratoire communautaire, alors c'était il y a 3 ans, dans un squat en banlieue parisienne. Aujourd'hui, c'est devenu, puisque vous avez inauguré hier, un espace de 750 mètres carrés avec plein d'inventeurs. Alors expliquez-nous à la base pourquoi vous avez voulu créer ce laboratoire, parce que vous étiez un ingénieur vraiment pur fruit de la tradition française, une bonne école, et vous êtes retrouvé dans des laboratoires classiques.
Alors, en effet, alors c'est un peu étrange, pourquoi on a été faire ça dans un squat. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait de la recherche ou lorsqu'on veut, par exemple, travailler ici particulièrement avec la biologie, ce qui était le cas de la paillasse, ce laboratoire, eh bien, c'est extrêmement difficile. La biologie aujourd'hui fait partie de ces disciplines seulement accessibles à une sorte d'élite et qui serait passée par la voie académique un peu traditionnelle.
Comme vous.
Voilà, un peu comme moi finalement, et j'ai eu cette chance. Mais aujourd'hui, on se retrouve finalement face à tellement de problématiques à résoudre, et la biologie a un énorme pouvoir, voilà, elle peut apporter énormément de solutions, mais malheureusement, ça coûte trop cher. Voilà, c'est le coût en fait de développement d'une technologie, d'une bio technologie est extrêmement coûteuse. Et il fallait donc réinventer un peu les codes du laboratoire, donc l'accessibilité, les manières de prototyper, de travailler ensemble, et surtout d'ouvrir en fait les codes un peu disciplinaires, faire travailler les gens de manière différente. Et donc finalement de créer un nouveau laboratoire, parce qu'on va pas aller créer un laboratoire comme ça, comme on le veut, à mon âge surtout, en sortant de thèse, on va pas ouvrir un institut académique.
Mais alors qu'est-ce que ça veut dire créer un laboratoire? Parce que pour plein de gens, ça veut dire des machines qui coûtent très cher.
Alors, un laboratoire, en effet, c'est un espace avec des machines dedans et puis avec des espaces pour travailler. Alors, comment on fait pour monter un laboratoire? Ça paraît très très cher, finalement, de monter un laboratoire. Hein, sinon, si c'était si simple, tout le monde le ferait. En fait, on s'est aperçu qu'il était beaucoup plus simple qu'on le pensait de récupérer des machines usagées des laboratoires, parce que bon, les laboratoires sont aussi consuméristes que nous, ils aiment bien voir la dernière machine, voilà, toute brillante, toute neuve, et puis bah, voilà, pour aussi garder une sorte de voilà, se garder dans la course, voilà, internationale. Mais en fait, les machines qui mettent au rebut sont encore fonctionnelles. Ce qui fait que naturellement, nous, on se met finalement entre les laboratoires et les bennes à ordures, on récupère tout ça et on s'est fabriqué en fait un laboratoire entièrement équipé pour 0 €.
0 €. Et en 3 ans, vous avez lancé quand même plusieurs innovations.
Voilà. Alors, ce qui est amusant, c'est que en ouvrant ce laboratoire, donc c'était absolument ouvert à tout le monde, on s'est aperçu que beaucoup de non-biologistes venaient.
Oui, parce qu'il n'y a pas de critères d'âge, d'études. Il suffit d'avoir, vous mettez sur votre site internet, l'envie finalement.
Ça suffit. À partir du moment, en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de la programmation informatique. Tout le monde peut s'y mettre à un moment donné. Le coût d'accès à la programmation informatique est faible. Il suffit, en fait, de passer un peu de temps sur Internet, de comprendre comment ça fonctionne. On a tous les tutoriels, on a toute la technologie nécessaire dans son ordinateur pour pouvoir, pourquoi pas, créer la prochaine application pour iPhone de demain. Donc, c'est pas le cas pour les biotechnologies, en tout cas. Et donc, il s'agissait ici en fait de donner la possibilité à des personnes non biologistes de pouvoir s'approprier en fait cette discipline simplement. Et pour ça, il suffit simplement en fait de les mettre, de les exposer en fait simplement à la biologie. Et on s'aperçoit assez rapidement que si on dépense la même énergie que pour apprendre à programmer aujourd'hui, mais cette énergie on la met en fait au service de la biologie, à apprendre la biologie, on peut faire des miracles.
Alors, pas si complexe que ça. Alors expliquez-nous justement quels sont les petits miracles qui sont nés dans votre laboratoire qui à l'époque était un squat jusqu'à hier.
Alors, ce qu'on a inventé, alors, dans un univers qui est quand même particulier, en effet, c'était pendant 2 ans, on était dans un squat. On a mis au point, entre autres, par exemple, des diagnostics génétiques, des techniques de diagnostic génétique low cost, à bas prix. Alors, faut savoir, par exemple, qu'à l'époque, on avait l'affaire de la viande de cheval. Et donc, si on voulait...
Donc, l'affaire de la viande de cheval, c'était, en fait, on avait trouvé dans des lasagnes de la viande de cheval au lieu de la viande de bœuf.
Voilà. Exactement. Donc, grosse affaire sanitaire, etc. Et comment on faisait, nous, en tant que citoyens normaux, pour savoir vraiment, en fait, ce qu'il y avait dedans, hein, ce qu'il fallait encore croire, en fait, des laboratoires privés, de la bonne parole. On est quand même à une époque où il y a une vraie crise de confiance entre les citoyens et les institutions. Sachant qu'en plus, qu'il y a un véritable canyon métaphorique scientifique. C'est-à-dire que la science est tellement complexe aujourd'hui que c'est très difficile de vulgariser. Donc ici, ça visait plutôt en fait de dire faites-nous confiance. On a analysé les choses. Redonnons le pouvoir en fait aux citoyens de pouvoir poser leurs propres questions et d'avoir leurs propres réponses.
Et une encre. Moi, j'adore cette encre végétale qu'on fait pousser sur son bureau.
Alors, c'est pas tout à fait une encre végétale. C'est une encre qu'on peut faire pousser soi-même en utilisant en fait des bactéries qui poussent naturellement dans le sol. Mmh. Et donc, on voulait mettre en point une alternative aux encres qui sont en fait un des éléments les plus polluants sur la planète. Hein, c'est fait de métaux lourds et de solvants assez dégueux. Et donc, il s'agissait de trouver une manière de biosourcer des encres, des encres de stylo, qui soient bleues, rouges, vertes, et qui soient biodégradables. Et en plus, qu'on puisse fabriquer soi-même. Et donc, on a trouvé cette méthode, on l'a mis au point dans le laboratoire. Tout a été fait au sein de ce laboratoire Squat, et il n'a pas fallu en fait grand-chose pour arriver à une preuve de concept intéressante. Et donc, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un projet qui est en train de devenir une start-up pour pouvoir distribuer, en tout cas, un kit, parce qu'on a travaillé également avec des designers, c'est important. Il y a des designers, des artistes, des sociologues, etc. Donc, il y a une vraie diversité. On a pu, du coup, en fait, mettre au point une vraie approche pédagogique et un vrai kit, en fait, d'interactivité entre les bactéries et l'utilisateur pour qu'il puisse fabriquer sa propre encre. Et voilà. Donc, ça, c'est parmi 2 exemples. Il y en a plein d'autres.
On va y revenir, on aura le temps dans la deuxième partie de l'émission. Navier Adjou, ça c'est de l'esprit de Jougad.
Oui, absolument, parce qu'en fait, ce que Thomas Landrin est en train de mettre en place, c'est carrément une nouvelle approche d'innovation scientifique. Hein. Avant, l'innovation était coûteuse, comme il explique, très élitiste, assez fermée comme modèle. Et lui, il préconise un modèle avec la paillasse qui est à la fois frugal, plus agile et plus inclusif. Donc c'est vraiment Jougad.
Restez sur RFI, vous ne serez pas mieux ailleurs. Dans quelques minutes, nous vous emmènerons en Afrique de l'Ouest, où l'état d'esprit de Jougad est aussi en pleine effervescence. À tout de suite.